France Culture. La science CQFD, Natacha Triou.
Si la physique quantique décrit l'infiniment petit, la physique classique, elle, s'intéresse aux phénomènes de plus large échelle. Les planètes, vous et moi, les souris. Dès lors, qu'est-ce que la biologie quantique ? Dès les débuts de la physique quantique, ses pionniers se sont interrogés sur ce lien entre quantique et biologie. Le physicien Erwin Schrödinger a notamment écrit à ce propos « Qu'est-ce que la vie ?» en 1944. Ce n'est que très récemment que le domaine de recherche a émergé pour étudier ces bizarreries quantiques dissimulées dans le monde vivant. Comme par exemple le rouge-gorge. La navigation de cet oiseau migrateur s'appuierait sur un phénomène quantique. Ou encore chez les plantes, un photon, une unique particule de lumière suffit pour déclencher la photosynthèse. Quelles sont donc les manifestations du quantique en biologie ? Biologie quantique, la nouvelle mécanique du vivant ? Bonjour Margaret Hamad.
Bonjour.
Vous êtes biologiste, spécialiste des applications, directeur de recherche et chef de l'équipe biologie quantique à la Sorbonne. Bonjour Alex Thune.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS, Institut des nanosciences de Paris, et directeur de thèse de Thibault Lacroix. Thibault Lacroix, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur postdoctorant à l'Institut de physique théorique de Ulm en Allemagne. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation en direct dans nos studios à France Culture. Et merci à vous d'être au rendez-vous en direct ou en podcast à toute heure sur l'appli Radio France. N'hésitez pas à nous suivre sur Blue Sky tous les jours. Nous postons pour vous de nombreuses ressources. C'est à retrouver sur notre compte @sciencesqfd. Alors, où la dimension quantique intervient-elle dans notre monde biologique ? Comment étudier ces manifestations ? Et pour quelles applications possibles ? Nous sommes ensemble une heure pour répondre à ces questions. Mais d'abord, la théorie quantique décrit donc les particules, les atomes, les molécules, bref, le monde microscopique. La physique classique, elle, décrit le monde palpable, le monde macroscopique. Thibault Lacroix, de quoi parle-t-on finalement quand on parle de biologie quantique ?
Alors, quand on parle de biologie quantique, on va s'intéresser à tous les effets qui sont issus justement de cette théorie de l'infiniment petit, qui est la physique quantique, donc ces effets de délocalisation, de superposition, le fait que, par exemple, les objets quantiques puissent être à plusieurs endroits en même temps, ou ces effets d'intrication qui sont ces corrélations impossibles à avoir dans le monde classique, à des échelles qui sont des échelles intermédiaires, les échelles de la biologie, et qui pourraient avoir des conséquences sur les fonctions du vivant, donc typiquement la navigation pour les oiseaux migrateurs, le transfert d'énergie dans le cadre de la photosynthèse. Donc dans tous ces exemples-là, on a un phénomène qui relève initialement de cette théorie de l'infiniment petit, mais qui va pouvoir avoir une manifestation, qui va pouvoir être préservée des influences extérieures pour avoir une manifestation à grande échelle.
Grande échelle, ça c'est un mot-clé, Alex Thune. Finalement, la différence entre physique classique et physique quantique, c'est ça, c'est cette question d'échelle. Mais où finit le quantique et où commence la physique classique ?
Ah,
vaste question.
Oui, surtout, quand on parle de la biologie quantique, tous les processus quantiques qui sont impliqués sont un petit peu les processus à l'échelle nanométrique. Je pense que ça c'est la intermédiaire entre surtout pour le potentiellement la biologie. Et c'est intéressant parce que le nanométrique c'est un petit peu la taille des protéines par exemple en général. So, c'est l'épaisseur, la membrane cellulaire. Mais même à cette échelle-là, on a déjà une échelle où c'est très compliqué, ou complexe. On a plusieurs atomes, plusieurs structures, et c'est à température ambiante. Il y a beaucoup de parties du structure qui bougent avec les fluctuations et tout ça. Et ce n'est pas idéal pour les quantiques. Souvent, on pense que les très grands phénomènes quantiques, c'est dans les laboratoires avec les atomes autrefois, dans les conditions très contrôlées. Et c'est un petit peu plus sauvage dans la biologie. On ne tombe pas même aux petites échelles, mais tout récemment, c'était proposé que les effets existent même et dans la biologie à ces échelles.
Et on va voir en effet quelles sont les difficultés pour pouvoir étudier ces effets. On parle là, Margaret Hamad, quand même d'un domaine de recherche qui en effet très récent. Il y a encore assez peu de recherches sur ces questions.
Oui, c'est assez nouveau comme concept. J'aime bien votre discours d'échelle. Donc, je vais introduire l'échelle de biologie dans cette question. Et le minimum unit de biologie, c'est une cellule. Donc, tout ce qui se passe dans la cellule, qui est lié à ces effets de subatomic particles, ça, c'est la biologie quantique, en fait. Comme nous, les biologistes, le comprenons. Et ça va de la part des réactions chimiques dans la cellule. Quel est l'effet sur le vivant de ces réactions qui sont touchées par les forces quantiques? Donc, je pense que c'est la façon que moi, étant biologiste, vraiment pur dur, comprendre ces phénomènes. Et la question était pourquoi c'est récent. Je pense le leap entre la physique et les réactions chimiques des cellules, c'est récent. C'est assez récent parce qu'il faut étudier ça avec des méthodes qui sont très poussées, le spectroscopie, vous allez me parler plus de ça.
Oui, oui.
Des méthodes qui existaient peut-être pas autant dans le passé. Ceci dit, les effets des forces qu'on comprenait pas, ça a été toujours un peu une écho dans la biologie. Hein. Pourquoi les oiseaux répondent aux champs, c'est quoi ça? Mais on parlait pas de biologie quantique.
C'est un écho en effet qui existe, en tout cas dès le départ avec Schrödinger, je lui disais, un des pionniers de la quantique, qui s'est tout de suite posé la question dès le début. Le monde quantique avec lui est imaginé dans sa dimension biologique. Et on va écouter une des plus célèbres expériences de pensée de la physique, celle du chat de Schrödinger. Le petit chat de Schrödinger est mort.
On peut imaginer des situations parfaitement burlesques. Un chat est enfermé dans une enceinte d'acier avec le dispositif infernal suivant, qu'il faut soigneusement protéger de tout contact avec le chat. Un compteur Geiger est placé à proximité d'un minuscule échantillon de substance radioactive si petit que, durant une heure, il se peut qu'un seul de ses atomes se désintègre. Mais il se peut également, et avec une égale probabilité, qu'aucun ne se désintègre. En cas de désintégration, le compteur crépite et actionne, par l'intermédiaire d'un relais, un marteau qui brise une ampoule contenant de l'acide cyanhydrique. Si on abandonne ce dispositif à lui-même durant une heure, on pourra prédire que le chat est vivant à condition que, pendant ce temps, aucune désintégration ne se soit produite. La première désintégration l'aurait empoisonné. La fonction psi de l'ensemble exprimerait cela de la façon suivante. En elle, le chat vivant et le chat mort sont, si j'ose dire, mélangés ou brouillés en proportions égales. Erwin Schrödinger, 1935.
Voilà un extrait de l'émission La science et les hommes sur France Culture en 1997. Thibault Lacroix, Schrödinger, il essaye avec cette idée de chat et vivant et mort de faire une preuve par l'absurde de l'impossibilité de la physique quantique à expliquer tous les phénomènes.
Exactement. Alors, à l'époque où la physique quantique a été développée, dans ces années 30, il s'est posé une question qui est de dire elle est tellement étrange. Ce qu'elle prédit, justement, ces effets de physique quantique sont tellement étranges qu'elle doit être un peu fausse. Qu'il doit nous manquer quelque chose pour comprendre ce qui se passe derrière et pour qu'on puisse réutiliser nos notions de physique classique pour pouvoir décrire cet infiniment petit. Et Erwin Schrödinger, il a choisi de faire cette expérience de pensée en enfermant ce chat dans cette boîte avec un atome radioactif pour essayer de montrer l'absurdité des prédictions de la physique quantique en ayant ce chat qui, du coup, se retrouve dans cette fameuse superposition qui est initialement celle de l'atome radioactif, prédit par la physique quantique. Donc on a là cette particule qui est à l'échelle atomique, qui peut rentrer dans cette superposition d'avoir été désintégrée ou pas désintégrée, et qui par ricochet va faire rentrer le chat lui-même dans cette superposition, avec cette conclusion absurde d'avoir un chat qui est à la fois mort et vivant. Mais ce qui est incroyable dans cette expérience de pensée, c'est qu'elle contient l'intégralité des phénomènes étranges de la physique quantique. Donc on a finalement la notion de superposition, le fait que le chat puisse être à la fois mort et vivant, le fait qu'on a cette indétermination tant que la mesure n'a pas été réalisée, parce que il est dans cette superposition le chat, mais si on ouvre la boîte, on va le trouver soit mort, soit vivant. Et donc du coup, on va avoir cette collapse de la fonction d'onde, comme donc la fameuse fonction psi qui était mentionnée dans l'extrait, qui est la description en physique quantique de l'état des choses, qui va du coup aléatoirement devenir soit chat vivant, chat mort. Mais on a aussi, dans cette expérience de pensée, l'intrication qui est présente, puisqu'on a cette corrélation parfaite entre l'état de l'atome radioactif et l'état du chat. Si l'atome radioactif ne s'est pas désintégré, alors le chat est forcément vivant. S'il s'est désintégré, alors le chat est mort. Et donc du coup, cette expérience de pensée contient toute la physique quantique résumée en son cœur, et cette question extrêmement importante, finalement, où est la limite entre la physique quantique et la physique classique? Comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre?
Là, en effet, vous venez de nous faire un rappel des fondamentaux et de dire ce mot, hein, et ce principe très important, celui de l'indétermination de la mesure. La particule, elle est sur plusieurs endroits en même temps jusqu'à ce qu'on fasse la mesure. Et on a ce gros problème dans la physique quantique, celui de la décohérence. Thibault Lacroix.
Oui, tout à fait. Et du coup, la décohérence, c'est le fait que ces propriétés de la physique quantique, d'avoir des superpositions, d'avoir de l'intrication, c'est une propriété qui est extrêmement fragile. Et c'est ce que Alex Chin expliquait tout à l'heure, ou rappelait, c'est que habituellement, en tant que physicien, ces propriétés-là, on les obtient en laboratoire, seulement dans des conditions extrêmement drastiques. Il faut être isolé du monde extérieur, pas d'influence de champ électromagnétique, on veut être à des températures proches du zéro absolu, moins 273 degrés, pour éviter toute vibration de l'environnement, toute chaleur qui pourrait être là, et détruire ces superpositions quantiques. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important, et c'est l'une des explications en réalité de pourquoi, si on faisait cette expérience de pensée du chat Schrödinger dans la vraie vie, on n'observerait pas une superposition entre un chat mort et un chat vivant, parce que en interagissant avec les molécules d'air qu'il y a dans la boîte, en interagissant avec les parois de la boîte, le fait que tout soit à température ambiante, les ondes électromagnétiques qu'il y a autour, tout cela forcerait le chat à, du coup, être soit mort, soit vivant. Cela ferait sauter complètement cette superposition quantique pour choisir un seul état classique.
Voilà, la décohérence, c'est le gros souci d'un ordinateur quantique. Et même si on parle de biologie quantique, vous verrez, on y reviendra. Alex Chin, justement, là, on vient de voir quand toutes ces conditions qui peuvent provoquer la décohérence quantique. Mais comme vous nous avez dit, quand on parle de biologie, on n'est pas dans des conditions calmes du tout. Donc ça veut dire qu'en théorie, il ne peut pas y avoir d'effet quantique à ce niveau-là. Il y a trop d'interférences.
Oui.
En théorie.
Mais en théorie, a priori, dans un certain sens. Et c'était l'idée qu'on avait jusqu'à les années assez récentes. Mais quand on fait les calculs et les simulations du structure électronique et le mouvement des protéines qui hébergent les chromophores, les molécules comme le chlorophylle et tout ça, on voit de plus en plus qu'ils ont, oui, ils bougent, mais ils bougent dans une manière un petit peu corrélée. Et ça réduise un petit peu les désordres. C'est pas les choses aléatoires qui vibrent indépendamment. Il y a un rôle pour la protéine pour coordonner ces mouvements et qui peut-être réduire le prix. Il s'attoue au niveau des interactions électroniques entre les molécules. Et ça, c'est un défi de nanotechnologie très intéressant.
Thibault Lacroix, par rapport justement à ces états intriqués, macroscopiques, à l'échelle biologique, à quel point est-ce possible?
Alors, à quel point est-ce possible? Ça dépend des échelles auxquelles on regarde. Donc, a priori, c'est pas possible à l'échelle d'une cellule entière. On n'a pas des cas de cellules superposées. C'est pas possible à ces échelles-là. Mais à des échelles beaucoup plus courtes, beaucoup plus petites, qui vont être les échelles de quelques fractions de nanomètres. On peut avoir pas des objets comme les protéines elles-mêmes, mais on peut avoir des superposition ou des états intriqués d'électrons qui, eux, sont en train d'interagir avec ces protéines, avec ces pigments. Et ce qui va se passer, c'est que justement, en interagissant normalement avec ces pigments et ces structures extrêmement complexes qu'il peut y avoir dans le vivant, ces pigments ou ces protéines, normalement, ces superpositions devraient disparaître. Or, elles sont préservées sur des temps qui sont assez longs, à l'échelle de ces phénomènes quantiques à température physiologique, dans des environnements non contrôlés, et sur des distances, du coup, à l'intérieur des cellules ou à l'intérieur de ces différents systèmes biologiques qui sont assez grands. Et donc, du coup, ça ne va pas être ces structures elles-mêmes comme les protéines qui vont être dans un état quantique, mais c'est les excitations, l'énergie qu'elles peuvent absorber et qu'elles peuvent transmettre, qui va pouvoir rester dans un état quantique pendant des temps et sur des distances qui, elles, défient ce qu'on imaginait avant.
Thibault Lacroix, c'est-à-dire que aussi en laboratoire, on peut, de plus en plus, on arrive à conférer un état intriqué à des solides, même lorsqu'ils sont grands et chauds, aussi parmi les derniers et récents résultats.
Oui, on fait des progrès qui sont énormes en laboratoire, mais sur des systèmes qui sont finalement, globalement, beaucoup plus simples que ces systèmes biologiques. Donc on va avoir des systèmes, par exemple, comme des petites membranes qui vibrent en laboratoire, qu'on arrive à mettre dans des états superposés, ou des objets qui, sur des distances qui sont extrêmement plus grandes de l'ordre... peuvent être dans des états quantiques, mais c'est quand même des objets qui finalement ont beaucoup plus d'ordre, beaucoup plus de structure que les objets qu'on rencontre en biologie. Mais on fait en effet des progrès énormes sur la maîtrise des états quantiques d'objets qui ne sont plus du tout à ces échelles de la particule élémentaire et qui se rapprochent de ces échelles des échelles nanométriques.
Eh bien, ne parlons plus d'objets, mais bien d'êtres vivants. Quels exemples de manifestations quantiques en biologie avons-nous ? Le rouge-gorge, restez à l'écoute.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture, nous parlons de biologie quantique qui étudie les processus quantiques cachés dans le monde vivant. On en parle avec Margaret Hamad, Alex Chin et Thibault Lacroix. On vient de rappeler les principes fondamentaux de la théorie quantique. La superposition, cette propriété des particules qui dit qu'une seule particule peut être dans plusieurs endroits à la fois. L'intrication, quand plusieurs propriétés différentes vont être liées entre elles, peu importe la distance qui sépare les deux particules. Et la décohérence, la fameuse, le problème qui, elle, empêche le maintien des états quantiques. Ces états quantiques, on les retrouve notamment, Margaret Hamad, c'est sans transition, presque chez le rouge-gorge. Le rouge-gorge, cet oiseau migrateur qui est capable de faire un périple de 13 000 km sans se perdre. Comment fait-il ? Ça, c'est grâce à une boussole quantique, presque.
Oui, c'est vrai. Le champ magnétique terrestre, il a une direction. C'est une des rares forces qui a une direction. Donc, par exemple, c'est normalement ici, ça a une direction de top to bottom. Et c'est dans la direction du pôle. Et donc, les rouges-gorges, ils sont capables de senser la direction. Et attention, l'échelle, c'est fantastique. Un fridge magnet, c'est quoi un fridge magnet?
Un frigo.
Une magnète de frigo, ouais. Il a 100 fois plus d'énergie que le champ terrestre. Mais cet oiseau peut savoir la différence entre 15 degrés de différence dans ce champ. Donc, ils sont extrêmement sensibles. Mais là, on revient à la question d'échelle, qui s'était bien décrit de biologie quantique. L'échelle biologique qu'on peut capter, c'est des réactions chimiques. C'est quoi la cellule? C'est une concentration de métabolisme, de réactions métaboliques, chimiques, et évidemment sur la rouge-gorge, des neurones qui ont des effets neuronaux sur le comportement. Mais tout ça, c'est des réactions chimiques. Et le façon qui était bien décrit déjà, que les forces quantiques peuvent jouer dessus, c'est sur ces réactions chimiques directement. C'est une traite, par exemple, dans le rouge-gorge, il existe un récepteur qui répond à des forces faibles quantiques. C'est le cryptochrome. Et c'est un changement de l'efficacité d'une réaction chimique. C'est que ça. On peut mesurer ça chimiquement. Mais le oiseau qui a ça intégré dans son rétine, il peut capter la différence chimique faible d'une force quantique et le transformer à un comportement grâce, on pense à des neurones, des mécanismes classiques biologiques, on connaît tout. Donc vraiment l'étape qu'il faut capter pour la biologie quantique, à mon avis, c'est le début. Là où la réaction de base est touchée par une force quantique. Et c'est...
Je vous vois, Alex Chin, qui souhaite intervenir.
Non, je suis tout à fait d'accord. L'absurdité de le Charles Schrödinger, c'est l'application de la mécanique, les règles de la mécanique quantique à toute échelle, à toutes les échelles, de l'atome et le char. Mais je pense, Margaret a tout à fait raison, dans la biologie quantique moderne, c'est au niveau des réactions et chimiques ou photochimiques, photophysiques. Et est-ce que ça peut changer les processus biologiques?
C'est que ça que nous, les biologistes, peuvent voir. C'est la question du chat, par exemple. On regarde est-ce qu'il est mort ou vivant après l'application des forces quantiques. On attend que ça revienne à l'échelle normale et c'est là qu'on capte les effets. Mais puisque, comme on a entendu, les réactions se font dans la cellule sur des réactions chimiques, on peut voir les conséquences. La direction que l'oiseau il se migre, c'est une conséquence d'une réaction chimique à une échelle quantique.
Oui.
Mais le biologie, c'est en anglais, on sait le readout. C'est vraiment tout ce que fait le oiseau, c'est le readout pour ce réaction.
Oui, donc pour le char de Schrödinger, on a l'atome et le char qui est vivant ou mort, mais pas les processus par lesquels le char devient mort.
À propos de processus, donc dans les yeux des rouges-gorges, dans leur rétine, on a donc ces cryptochromes. Que se passe-t-il justement pour cette molécule, enfin quand cette molécule absorbe un photon?
C'est un photorécepteur, donc il absorbe une photo et il a une réaction chimique de bien classique de flavine. C'est une photoréduction. Donc, il a un transfert d'électrons, c'est bien connu les étapes classiques chimiques. Mais ce qui est intéressant et ce qui est quantique dedans, c'est justement l'énergie vient de la lumière, mais il y a un état excité, énergétiquement excité, un état intermédiaire de la réaction avant qu'il fait son produit qui est une flavine réduite, donc c'est une chimique. Et c'est à l'échelle du état excité, du réaction, où les faibles forces quantiques peuvent avoir un grand impact. Donc, la façon de voir ça, si je fais la réaction avec un champ magnétique, il y a une vitesse X. Si je fais la réaction sans le champ magnétique, il y a une vitesse X moins 100. Donc, c'est la vitesse d'une réaction qui change. Et c'est vraiment ça qu'il faut capter. Donc, tous les effets du quantique sur le vivant peuvent se comprendre comme ça. Ah, il y a une réaction métabolique qui est plus rapide ou plus lente. Une réaction photosynthétique qui est plus ou moins efficace. Et comme ça, nous, les biologistes, on peut mesurer quelque chose, on peut suivre un effet et on peut s'en servir pour des applications.
Thibault Lacroix, justement, sur cette étude du cryptochrome dans les yeux des rouges-gorges et sur ces phénomènes quantiques.
Oui, alors ce qui est extrêmement intéressant ici, c'est en effet qu'il y a un phénomène quantique qui a lieu à cette échelle extrêmement petite, donc à l'échelle ici d'électrons eux-mêmes, et les électrons qui sont d'ailleurs porteurs d'une propriété purement quantique là aussi qui s'appelle le spin. Les électrons se comportent eux-mêmes comme des petits aimants et vont pouvoir réagir au champ magnétique terrestre, et du coup, comme expliquait Margaret, ça va changer la rapidité de certaines réactions chimiques, et en fonction du coup du champ magnétique ambiant, ces réactions chimiques vont avoir lieu à des rythmes différents et produire du coup des réactions différentes qui vont permettre à l'oiseau de s'orienter en fonction de ce champ magnétique. Et tout ça, ça repose sur le fait qu'on a ces électrons porteurs de ce petit moment magnétique, ce spin qui va pouvoir être préservé, qui va pouvoir rester dans cet état quantique et réagir à la présence du champ magnétique terrestre, malgré le fait qu'il soit extrêmement faible, comme ça a été dit.
Mais pour le moment, Margaret Hamad, la navigation du rouge-gorge, elle est très convaincante, mais on ne connaît pas encore bien le détail précis, que ce soit en termes quantiques ou biologiques. Enfin, c'est une hypothèse solide, mais qui reste encore à démontrer formellement, c'est ça, dans les détails.
C'est sûr que le récepteur cryptochrome, il n'était jamais démontré, il n'était jamais prouvé.
Isolé, c'est ça.
On sait qu'il est là, mais on n'a jamais prouvé que c'est lié à la magnétoréception. Ça, c'est un des problèmes avec ce domaine, je dois dire, qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites, qui deviennent presque des urban legends. Mais si on regarde très bien les données expérimentales, ça n'existe pas. Et ça, c'était une des choses qui ont mis une mauvaise réputation, à mon avis, sur tout ce domaine. Ceci dit, je peux dire que le cryptochrome, ça se trouve pas uniquement chez le rouge-gorge, mais aussi chez les plantes, et aussi, c'est là, il était découvert, hein, et aussi chez les
drosophiles,
les insectes, et bien partout, chez l'homme. Mmh. Ah. On peut revenir sur ça. Et là, c'était quand même démontré que c'est directement lié à des réponses au champ magnétique. Le protéine, le récepteur lui-même, il répond, mais c'était pas montré que les oiseaux s'en servent de ça.
L'un des domaines où, en effet, c'est formellement plus démontré dans le détail, où il n'y a pas trop de questions, c'est celle de la photosynthèse. Restez avec nous.
Bonsoir. Je me suis beaucoup et longtemps posé la question de savoir comment il fallait introduire, présenter cette première soirée. Et puis voilà, je me suis dit qu'il fallait aller au plus simple. Je me suis dit, lui, c'est quand même un mec comme ça. C'est quand même un mec hyper chiant, hein. Bon, c'est une sorte de tyran domestique. Et il dit, voilà. Et le soir, il se met dans son lit, juste comme ça. Et il fait une sorte, de travail. Presque un travail d'acteur. Il est là, il ferme les yeux et il fait des projections. Voilà. Il fait des projections. Il se met à se projeter comme ça dans le temps et dans l'espace. Et il court après un photon. J'adore déjà. Évidemment, il n'y a pas grand chose qui va plus vite que le photon. Et lui, il court en dingue, dans sa tête, comme ça, juste en projection. Il court après ce photon, il lui court après. Et il passe des heures comme ça, le soir, sur son lit, à se projeter, les yeux fermés, en train de courir après un photon. Alors évidemment, après un certain nombre d'heures, rire comme ça, après ce qui ne peut pas manquer d'arriver arrive, qu'il est fatigué, tout simplement. Et tous les soirs, il recommence, et tous les soirs, au moment où il est sur le point de toucher le ton, il s'endort.
Léopoldine HH, bonsoir photon, car on s'apprête à parler de photosynthèse et des mécanismes quantiques en jeu au cœur des fleurs. On parle de biologie quantique avec nos trois invités du jour. Thibault Lacroix, chercheur postdoctorant à l'Institut de physique théorique de Ulm en Allemagne. Alec Chin, directeur de recherche au CNRS, Institut des nanosciences de Paris. Et Margaret Hamad, biologiste, chef de l'équipe biologie quantique à la Sorbonne. On vient de parler des effets quantiques qui sont au cœur des yeux, des rouges-gorges. Vous avez évoqué il y a quelques instants, Margaret Hamad, des légendes urbaines autour de la biologie quantique. On peut en dire une notamment, c'est celle selon laquelle le cerveau humain serait quantique. Ça, c'est quelque chose qui a été mis sur la table. Bon, c'est pourtant un prix Nobel, hein. Roger Penrose, c'est une idée qu'il a formulée il y a une trentaine d'années. On peut le dire tout de suite, c'est de la pseudo-science.
C'est à moi de vous poser la question.
Ou alors je me tourne vers Alex Chin à propos de cette histoire selon laquelle le cerveau serait.
J'ai juste une chose à dire.
La conscience serait quantique. Voilà, c'était.
Juste une chose rapidement. Comme biologiste, j'ai besoin des choses mesurables. Je suis à l'échelle d'une cellule et donc ça m'échappe un petit peu tout ça.
Alex Chin.
J'ai plus ou moins la même réponse. Je ne connais pas très bien la théorie, mais c'est les microtubules qui donnent la conscience ou quelque chose comme ça.
C'est ça, les microtubules, c'est finalement intracellulaire qui servent au transport dans les cellules, qui abriterait donc des états quantiques, Thibault Lacroix.
Oui, donc c'est en effet une hypothèse, une spéculation qui a été proposée il y a de nombreuses années maintenant par Roger Penrose. Et une grosse limite de cette spéculation, c'est qu'en effet, elle fait pas de prédictions qui sont réellement testables. Donc, il a imaginé avec d'autres personnes ce mécanisme. Il a fait des calculs pour montrer que selon lui, ça serait possible. Mais ce n'est pas quelque chose qui est à l'heure actuelle exploitable et ce n'est même pas quelque chose qui, du point de vue a priori des personnes étudiant la neurobiologie, a l'air de faire sens. Les microtubules n'ont pas l'air d'avoir la fonction qui leur a été prêtée par Penrose. Donc c'est en effet quelque chose qui a été proposé, mis sur la table, mais qui n'est à l'heure actuelle pas convaincant.
Voilà, c'est impossible donc de tester cette hypothèse. En revanche, il existe un cas d'intrication persistant dans la nature et bien documenté.
L'utilisation finalement de l'énergie solaire par les plantes est certainement l'une des caractéristiques de la photosynthèse. C'est une énergie assez simple, assez primitive et qui est utilisée pour le mieux.
Oui, le point important, c'est que normalement les êtres vivants, pour se nourrir, ont recours à des molécules très complexes. Nous mangeons du sucre, nous mangeons des protéines sous forme de viande, nous mangeons des vitamines,
épinards,
des vitamines sous bien des beaucoup de formes. Mais pour les plantes, les éléments de base sont extrêmement simples. Ce sont des éléments minéraux que les plantes puisent dans le sol par leurs racines. Ce sont deux gaz, enfin essentiellement un gaz, le gaz carbonique, et aussi l'oxygène qui est utilisé pour la respiration. Et c'est à partir de ce carbone, du gaz carbonique, que grâce à l'absorption des rayons lumineux, des rayons solaires, par les molécules de pigments.
Attendez, ça devient compliqué. Molécules, je vois pigments, qu'est-ce que vous appelez le pigment ?
Pigments, eh bien, ce sont les composés qui, dans les cellules végétales,
sont capables
d'absorber les rayonnements solaires. C'est-à-dire, ce sont les molécules de chlorophylle et les molécules de caroténoïdes qui sont à leur voisinage dans les chloroplastes, qui sont les petits éléments, les petits organites, au sein desquels se réalisent les étapes principales de la photosynthèse.
Voilà un extrait de l'émission Science Vécue sur France Culture en 1968. Thibault Lacroix, quels sont les mécanismes quantiques de la photosynthèse ? Que se passe-t-il lorsqu'un photon touche la plante ? Que se passe-t-il pour ces pigments ?
Du coup, les pigments qui ont été cités dans cette archive, les chlorophylles, les caroténoïdes, ils vont absorber les photons qui ont été émis par le soleil. Donc ils vont absorber un de ces photons, ils vont en prendre son énergie et transférer cette énergie à un électron qui était présent dans cette molécule, dans ce pigment. Et ensuite, cet électron qui est plein d'énergie, il va falloir en faire quelque chose. Il va falloir le transporter au sein du système photosynthétique, soit de la plante ou même de bactéries ou d'algues, parce qu'il y a plusieurs des organismes qui sont photosynthétiques sur Terre, et transporter cet électron plein d'énergie jusqu'à ce qu'on appelle un centre réactionnel ou un centre de réaction, où il va être mis à profit pour justement faire croître la plante, pour faire des réactions chimiques de croissance de la plante. Et du coup, il y a toute cette partie de transport qui va avoir lieu, où on va passer de pigment en pigment à travers cet appareil photosynthétique. Et c'est là où il y a aussi des effets de physique quantique qui vont avoir lieu. La première partie, qui est le fait qu'on absorbe ce photon et qu'on transfère cette énergie à un électron, c'est déjà un effet qui est décrit par la physique quantique, mais c'est un échec qui a lieu à l'échelle molécule. Donc c'est l'échelle normale à laquelle on s'attend à voir des effets quantiques. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que cet électron, il va commencer à se délocaliser sur un ou deux pigments. Il va réussir à maintenir cette délocalisation, il ne va pas pouvoir se délocaliser plus, il ne va pas être capable de se délocaliser sur l'ensemble des pigments, les milliers ou les centaines de pigments qu'il y a dans ces systèmes photosynthétiques, parce que justement, il y a des phénomène de décohérence qui l'en empêche complètement, mais il va pouvoir rester délocalisé sur l'échelle de 1 ou 2 pigments. Et ensuite, il va pouvoir se propager jusqu'à arriver à ce centre de réaction. Et ce qui a été bien montré par les analyses qui ont été faites sur ce genre de système photosynthétique, c'est que ce transfert est extrêmement efficace. Il a lieu à l'échelle de la picoseconde. Donc une picoseconde, c'est un milliardième de milliseconde. Et il a une efficacité incroyable, c'est-à-dire que chaque photon capturé par un pigment est effectivement transféré au centre de réaction de l'organisme qui fait la photosynthèse. Et si on avait des mécanismes qui étaient purement classiques, les estimations qu'on fait, c'est qu'il faudrait sûrement à peu près 100 fois plus de temps pour que cette énergie soit transférée jusqu'au centre de réaction. Et en prenant plus de temps, quel est le risque qu'en fait elle se perde? Il y a le risque qu'elle soit dissipée justement sous forme de vibration dans ces pigments et qu'elle soit perdue, cette énergie, donc pas utilisable par l'organisme qui fait la photosynthèse, ou bien même que justement cet électron il reperde son énergie et réémette lui-même un photon. Et donc ce n'est pas ce qu'on observe quand on étudie ces systèmes photosynthétiques qui ont une efficacité de quasiment 100%.
C'est ça qui est le plus étonnant dans ces systèmes, Alex Chin. C'est en effet, comme ce qui vient d'être dit, le processus est extrêmement efficace. On ne perd quasiment aucune charge.
Mm-hmm. Surtout les températures basses, ça approche, surtout les réactions dans le centre, les réactions 100%, presque. Et la diffusion d'énergie, le transfert d'énergie est très guidé, piloté par les propriétés quantiques dans les antennes au niveau de l'apparatus photosynthétique vers ces centres de réaction. Et Thibault a parlé de localisation. Donc, on a l'idée qu'un électron ou excitation peut se délocaliser dans une manière, c'est-à-dire une superposition d'être sur plusieurs molécules en même temps. Selon la mécanique quantique, ça c'est un état unique avec une énergie qui est différente d'excitation de l'énergie d'excitation des molécules singulières. Donc, grâce à contrôler les couplages et les interactions à ce niveau quantique, il peut changer l'énergie des composants qui normalement sont plus ou moins identiques pour créer les gradients qui guident l'énergie très efficacement grâce à l'établissement des états délocalisés, qui est un processus complètement quantique. Vers le centre de réaction. Et là, c'est très important pour l'efficacité.
Thibault Lacroix, on vient de parler, vous venez d'évoquer un processus très rapide, de l'ordre de la picoseconde. On est sur des distances de l'ordre de la centaine de nanomètres. Alors, c'est tout petit, mais pas tant que ça pour la quantique. Est-ce que c'est une surprise de trouver des phénomènes quantiques ici, à ces échelles?
C'est extrêmement surprenant. Malgré le fait qu'on puisse se dire, bon, bah, c'est tout petit et c'est très rapide, c'est de la picoseconde, c'est quelques nanomètres, c'est minuscule, c'est normal. On pourrait se dire, c'est normal d'avoir des phénomènes étranges de physique quantique, mais pas du tout. C'est déjà des échelles qui sont grandes au niveau de ces phénomènes quantiques. Et surtout, comme on l'expliquait au début de cette émission, il y a ce problème de la décohérence. Et ici, il y a des sources de décohérence partout. Chacun de ces des pigments qu'on va retrouver dans les systèmes photosynthétiques, il a des centaines de modes de vibration où les atomes bougent dans tous les sens, viennent du coup perturber l'électron. Ces pigments eux-mêmes, ils sont entourés de protéines qui vont les maintenir en place et qui, eux aussi, à température ambiante, du coup, vont vibrer, vont bouger dans tous les sens, le tout souvent dans un solvant liquide au sein de cellules. Et donc, on est dans le pire environnement, a priori, pour avoir ces phénomènes quantiques qui sont préservés. Donc, bien que ça se passe à des échelles de temps qui sont extrêmement rapides et des échelles de distance qui sont extrêmement courtes, a priori, c'est les conditions où on s'imaginerait qu'on est incapable d'avoir des phénomènes de physique quantique.
Margaret Hamad, cette efficacité qu'on est en train de décrire, c'est aussi lié à un effet quantique, le tunneling, l'effet tunnel qui dit que les électrons peuvent passer plus efficacement les barrières d'énergie.
Oui, et là, on tombe sur la réalité de la biologie. Cet effet sublime du quantique sur la réaction, est-ce qu'il a un effet sur la biologie? Et là, c'est un exemple on dit non. Parce que, en fait, finalement, qu'est-ce qui intéresse la plante? C'est le nombre de sucres par photon qu'il capte. C'est ça le readout pour la plante. Et malheureusement, même si le premier étape est tellement efficace, c'est à 1 ou 2% l'efficacité, finalement, de lumière qui fait des sucres du point de vue chimique. Donc, c'est une des réalités et une des raisons qu'il faut vraiment passer par la biologie pour voir le significance de ces effets.
Il y a un exemple dans la biosynthèse, non, l'effet du tunnel des protons, par exemple, qui est peut-être important pour le...
Et Marguerite Hamad confie même en secouant de la tête pour vous répondre à la positive. On continue sur les applications possibles de ce champ d'études. On continue avec le reportage du jour. Les phénomènes quantiques qui se déploient à échelle cellulaire pourraient offrir des pistes thérapeutiques pour contrer des maladies infectieuses et réduire les inflammations associées. Pour le reportage du jour, nous sommes allés à l'Institut de biologie Paris-Seine de Sorbonne Université pour se pencher sur le cas de l'inflammation au SARS-CoV-2 à l'origine du Covid. Et on en parle avec vous, Céline Lozanne. Bonjour.
Bonjour Natacha, la Covid, oui, qui se manifeste par une inflammation et surproduction de cytokines dans les poumons, induisant une insuffisance respiratoire. Les mécanismes cellulaires à l'origine de cette tempête de cytokines pourraient se réguler par photomodulation via des voies de signalisation impliquant le récepteur TLR4, stimulation à la lumière et au champ magnétique, des méthodes non invasives que la chercheuse Nathalie Jourdan étudie sur des cultures de cellules humaines qu'elle expose à de la lumière et des champs magnétiques. Des expériences qui montrent qu'une exposition quotidienne à la lumière infrarouge moyenne ou à des pulses de champs électromagnétiques réduit en effet l'inflammation des cellules.
On va rentrer dans la pièce de culture dans laquelle on étudie l'effet des champs magnétiques et électromagnétiques directement sur les cellules humaines. Donc avant de rentrer, là on est dans un sas et on va devoir enfiler des blouses spéciales qu'on n'utilise que dans cette pièce. Donc c'est une pièce avec un niveau de sécurité qui nous permet de manipuler les cellules humaines.
En réduisant le risque de contamination.
Voilà, tout à fait.
Alors qu'est-ce que vous avez sorti?
Alors j'ai sorti des cellules HEK qui sont classiquement utilisées dans les laboratoires. Ce sont des cellules humaines qui viennent d'un embryon, des cellules de rein.
Je peux regarder ?
Oui, bien sûr. Là, donc on les voit. Elles sont... Donc on voit un noyau un peu plus foncé et puis on voit des projections du cytoplasme, là, des étirements de la membrane.
De quelle manière on induit ici le champ magnétique? Alors quelle valeur? Parce qu'on sait que le champ magnétique terrestre est finalement assez faible.
Assez faible. Alors on s'intéresse au champ magnétique et électromagnétique de très basse fréquence. Voilà, les photons émis par ces ondes électromagnétiques ne sont pas assez puissants, n'ont pas assez d'énergie pour arracher un électron, pour briser une interaction des molécules.
Une paire d'électrons.
Voilà.
Et notamment la lumière bleue, on parle beaucoup de lumière bleue en ce qui concerne le cryptochrome, je crois.
Oui, alors c'est ça qui a été découvert en premier par Margaret Hamad. Et cette absorption de lumière bleu-vert entraîne un cycle de réduction-réoxydation de la flavine. Donc des électrons vont passer du cryptochrome, des tryptophanes du cryptochrome à la flavine, puis de la flavine à l'oxygène de l'air. Et en donnant ces électrons à l'oxygène, ça va produire un anion superoxyde, donc ce qu'on appelle un dérivé réactif de l'oxygène, ou un ROS, c'est l'acronyme en anglais.
Une réaction redox.
Voilà, tout à fait. Et cet anion superoxyde va être immédiatement, quand c'est dans les cellules, dismuté en H2O2. Donc ça c'est un phénomène. Et pendant ce mouvement d'électrons, il y a aussi un phénomène de paire radicalaire qui se crée. C'est-à-dire que quand deux électrons sont non appariés et sur un même niveau d'énergie et que leurs spins sont en intrication, ces deux spins des électrons non appariés peuvent avoir plusieurs états quantiques. Soit ils sont antiparallèles et on appelle ça l'état quantique singulé, soit ils sont parallèles, l'état quantique triplé, soit ils sont dans les deux états en même temps, selon le concept de superposition quantique. Voilà. Et pendant qu'ils sont en superposition quantique, c'est ce qu'on appelle la cohérence quantique. Et si elle est suffisamment longue, eh bien la paire radicalaire est sensible au champ électromagnétique. Donc suffisamment longue, ça veut dire de l'ordre de la milliseconde.
C'est ça qui est intriguant, parce qu'on s'attend à ce qu'il y ait très rapidement une décohérence, et finalement on observe même dans le vivant des durées assez longues.
Oui, c'est en tout cas l'hypothèse la plus robuste pour expliquer la sensibilité au champ magnétique, et notamment comment expliquer que le champ magnétique terrestre permet l'orientation des oiseaux migrateurs. C'est la paire radicalaire qui est pour le moment l'hypothèse la plus robuste.
Et si elle est testée, vérifiée, cette hypothèse, effectivement, il y aurait peut-être des applications très intéressantes dans beaucoup de domaines, en biotechnologie, en santé.
Voilà, donc avec les ondes électromagnétiques, on peut moduler la concentration en ROS, soit à la hausse, soit à la baisse. Et ça peut ouvrir des perspectives intéressantes pour aussi moduler les ROS lors de pathologies.
Ce genre de résultat, est-ce que ça peut constituer des preuves de concept, en tout cas, pour démarrer peut-être des études?
Alors, la preuve de concept, on va la voir ici. Okay. Donc, quand on a fait ces expériences, c'était juste avant la pandémie de SARS-CoV-2. Et donc, ça nous a donné l'idée, surtout en voyant le mécanisme par lequel le SARS-CoV-2 induit une hyperinflammation au niveau cellulaire. Avant de rentrer dans les cellules, sa protéine d'enveloppe, là, qui forme des spicules, est capable, à l'extérieur, de se fixer sur un récepteur d'une voie inflammatoire, la voie TLR4-NF-kB, donc le récepteur c'est TLR4, et de déclencher cette voie de signalisation qui amène à la synthèse de cytokines inflammatoires, notamment l'IL-6, dont on a beaucoup parlé dans la COVID-19. Donc, à partir de ces cellules-là, on a mis au point une méthode pour pouvoir observer les ROS avec le microscope directement à l'intérieur des cellules vivantes. Donc ici, on peut les exposer par exemple aux infrarouges. Là, on a un générateur qui alimente ces LED infrarouges. Là. Donc voilà, donc ça c'est quand on les expose aux infrarouges. Quand on les expose aux ondes électromagnétiques pulsées, donc les 10 Hz. Et donc là, on les a soumises à des puissances croissantes de radiofréquence. 1, 1000, 10 000 microwatts par mètre carré. Voilà, alors quand on fait ça, donc on expose les cellules, puis après on monte au 7e le plus rapidement possible pour avoir l'effet sur les ROS en direct, en même temps qu'on a le champ électro, enfin les radiofréquences.
Plateau technique d'imagerie cellulaire.
Voilà, c'est celui-là que j'utilise. En fait, c'est une chambre thermostatée et dans laquelle on peut injecter du CO2 à 5%. Donc les cellules sont exactement comme dans un incubateur. Elles ne sont pas perturbées, le pH n'est pas modifié, la température non plus. Et donc là, il y a un laser qui...
En haut.
Voilà.
Et nous, on observe...
Ici.
Mais juste en face, par ce microscope. Et donc l'écran, le moniteur reproduit ce qu'on voit au microscope.
Voilà. C'est vraiment le matériel qui nous a permis de faire toutes ces études.
Merci Céline Lozen. Nos reportages sur le terrain, c'est notre collection La Science au Labo, à podcaster sur l'appli Radio France, bien sûr. Margaret Hamad, une réaction à l'écoute de ce reportage?
Bon, c'est mon équipe, c'est mon travail là. Donc, ce qu'on a trouvé, c'est une façon de traiter l'inflammation aiguë avec des ondes à faible intensité électromagnétique. Et ça provoque des oxygènes radicalaires et c'est ça la réaction chimique. Donc, ça se produit instantanément, très très rapidement, mais la réponse de la cellule, c'est ça qui se met en place avec le temps. Ça, l'oxygène, c'est une stress, c'est une sorte de stress qui déclenche tous les voies de réparation, de contrôler le stress et anti-inflammatoire. Donc, tout le reste, c'est des voies biologiques et médicales. Le premier étape, pile, c'est le champ, mais après, tout ce qui se passe, c'est après la réaction chimique, l'oxygène radicalaire qui est provoqué.
On a un autre domaine d'application possible, Thibault Lacroix, c'est évidemment les ordinateurs quantiques. Comment justement la biologie quantique pourrait-elle aider à mettre en place, sur pied, ces fameux ordinateurs quantiques tant attendus ?
Le problème qu'on a avec le développement des technologies quantiques, comme l'ordinateur quantique à l'heure actuelle, c'est justement de préserver cette cohérence, de ne qu'elle soit pas détruite par les interactions avec le monde extérieur. Or, justement, ce qu'on découvre en étudiant ces phénomènes quantiques dans les milieux biologiques, c'est que parfois, ces interactions avec le monde extérieur, elles vont pas avoir un effet destructeur de ces cohérences, mais elles vont pouvoir en préserver une partie. Elles vont pas forcément permettre à la totalité des possibilités quantiques de s'exprimer, mais elles vont permettre à une partie qui est utile d'être préservée et de ne pas être détruite. Et du coup, en étudiant ces phénomènes qui ont lieu dans ces contextes biologiques, on aiguise, on découvre de nouveaux concepts et de nouveaux outils théoriques et d'outils physiques qu'on pourra ensuite exploiter pour ces technologies quantiques.
Ça veut dire qu'on pourrait donc s'inspirer, se bio-inspirer, même faire du biomimétisme à l'échelle quantique, mais en s'inspirant notamment, Thibault Lacroix, donc de ce qu'on a décrit sur la photosynthèse.
Oui, exactement. Et l'idée, ça serait d'essayer de finalement construire l'environnement dans lequel nos systèmes quantiques, par exemple nos ordinateurs quantiques, se trouveraient, pour que l'environnement, plutôt que de faire disparaître cette physique quantique, plutôt que de créer de la décohérence, au contraire, permettrait de la maintenir et de lui permettre de s'exprimer. Donc finalement, de faire un peu du judo avec le problème qu'on avait initialement, qui est cette interaction avec le monde extérieur des objets quantiques, et de retourner cette interaction à notre avantage.
Voilà, utiliser comme en photosynthèse, qui se sert d'une partie de la décohérence pour guider les résultats, en fait s'inspirer de ça pour nos ordinateurs quantiques, donc imaginer des matériaux peut-être organique, Thibault Lacroix. Autre application possible, la photosynthèse inspire également beaucoup pour faire des panneaux solaires plus efficaces, par exemple.
Oui, parce que justement, il y a ce fait que dans les premières étapes de la photosynthèse, on a cette efficacité de quasiment 100%, où chaque photon qui est capté va pouvoir ensuite être parfaitement transféré et utilisé, le tout dans des matériaux qui sont des matériaux organiques. C'est quelque chose qui est extrêmement inspirant pour la collecte de lumière qu'on fait de l'énergie, qui est à l'heure actuelle basée sur des matériaux inorganiques, métalliques, et qui n'a pas forcément tout le temps cette efficacité qui est extrêmement élevée. Donc on pourrait essayer de s'inspirer de ce qu'on trouve dans le vivant pour avoir une technique de captage d'énergie lumineuse basée sur des systèmes organiques, par exemple.
Voilà, donc abandonner les métaux rares et se tourner vers des composés organiques pour améliorer la capture de l'énergie soleil. Voilà, c'était notre jeudi prospective. Dans quelques secondes, on retrouve la chronique d'Alexandra Delbaume. Mais un grand merci à vous trois de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure au sujet de ce champ très exploratoire de la quantique appliquée à la biologie. Tout de suite, on quitte la physique pour parler de pollution lumineuse et de ses effets sur les oiseaux. C'est la chronique avec science.
Quel est l'effet de la pollution lumineuse sur l'activité des oiseaux? Selon le dernier indicateur de l'Observatoire national de la biodiversité, 85% du territoire français métropolitain est soumis à un niveau de pollution lumineuse élevé. Elle peut prendre plusieurs formes, un éblouissement direct par des lampadaires trop puissants, par exemple de la lumière ambiante seulement, de la lumière projetée au sol ou encore un halo diffus dans l'atmosphère. Cela répond à un besoin réel d'éclairage à la tombée du jour. Nos journées ne s'arrêtent plus avec le soleil, mais également à une volonté de sécuriser les déplacements, et je le souligne notamment pour les femmes seules à pied la nuit. Mais ce n'est pas sans conséquence sur la faune environnante. C'est d'abord évidemment une intuition qui s'est confirmée en étudiant précisément certaines espèces d'oiseaux. Frédéric Angelier est directeur de recherche CNRS au Centre d'études biologiques de Chizé.
La majorité des études se focalisent un peu sur des études de cas, c'est-à-dire qu'on va étudier quelques espèces ou une espèce dans un environnement assez spécifique. Donc typiquement, quand on parle de pollution lumineuse, on va parler de milieux plutôt urbains. Donc on va étudier, par exemple, mer Noire à Paris et puis en campagne. On va s'intéresser à des espèces nord-américaines comme le cardinal dans des grandes métropoles. Alors ce qui est très bien établi dans la littérature, c'est quand même que la pollution lumineuse, globalement, a un impact sur les heures de lever et les heures de coucher des oiseaux. Ça, c'est des choses qui ont été étudiées dans beaucoup, beaucoup de systèmes, avec beaucoup d'études de cas. Quand on met, en fait, toutes ces études en combinaison, on se rend compte que les heures de lever sont plus précoces chez les oiseaux lorsqu'ils sont exposés à la pollution lumineuse, et au contraire, leur heure de coucher plutôt plus tardive, même si l'effet est un peu plus limité. Et il n'y a pas vraiment d'études à ce jour qui se sont focalisées sur l'impact global que pouvait avoir la pollution lumineuse sur un grand cortège d'espèces, notamment ce qui concerne leur rythme d'activité.
Jusqu'ici, il n'existait que des travaux épars, sur des espèces particulières et dans des environnements donnés. Une méta-analyse, donc une étude des études disponibles sur le sujet, pointait déjà un effet général sur l'activité des oiseaux. Mais pour le prouver à grande échelle, la littérature scientifique ne suffit pas. Il faut des données en conditions réelles et partout. C'est ce qu'a fait une nouvelle étude parue dans Science. Et cette méthodologie n'implique pas seulement des scientifiques. Elle repose aussi sur de la science participative. C'est le projet BirdWeather. Comprenez la météo aviaire, des citoyennes et des citoyens ont installé un boîtier dans leur jardin. L'enregistreur se déclenche automatiquement au moindre bruit et un algorithme identifie si c'est un oiseau et de quelle espèce il s'agit. Un exemple ici, un chant capté hier dans le Massachusetts à Springfield. C'est un chardonneret jaune. Grâce à ces captations automatiques, les scientifiques ont rassemblé 60 millions de chants couvrant près de 600 espèces et les ont croisés avec des images satellites infrarouges. Résultat, la pollution lumineuse fait chanter les oiseaux. En moyenne, leur activité vocale s'allonge de 18 minutes le matin et 32 minutes le soir, soit 50 minutes par jour.
Ils mettent en évidence sans conteste que la pollution lumineuse modifie le rythme des oiseaux, et notamment leur heure de lever et leur cessation d'activité le soir. Donc c'est ce qui avait déjà été montré dans d'autres études, mais là c'est vraiment l'approche globale qui est nouvelle. L'intérêt de cette étude, c'est qu'on confirme quelque chose à une échelle très globale. Une autre originalité du papier, c'est aussi qu'il permet d'aller un peu plus loin que de juste dire, en fait, les oiseaux se lèvent plus tôt et ils se couchent plus tard. Et en fait, un des exemples les plus saillants qui sort de l'étude, c'est que la morphologie des oiseaux, et notamment la taille de leurs yeux, a un impact sur l'effet de la pollution lumineuse sur leur rythme d'activité. Et globalement, en fait, dans l'étude, il démontre que les espèces qui ont des plus grands yeux ont tendance à être plus sensibles à la pollution lumineuse, c'est-à-dire à se lever plus tôt et à se coucher plus tard que les espèces avec des yeux plus petits. On peut penser que si les oiseaux ont des yeux plus importants, ils vont être plus capables de percevoir les changements de photopériode et les changements de luminosité, et que de ce fait, ils vont être plus sensibles à cette pollution lumineuse qui est souvent urbaine.
Les oiseaux qui ont de grands yeux chantent plus longtemps, tout comme ceux qui ont un nid ouvert. Mais attention, penser que la pollution lumineuse est forcément délétère et forcément mauvaise serait une erreur. Par exemple, les moineaux tirent profit de cette lumière. Ils se lèvent plutôt en moyenne, oui, mais seulement lors de certaines phases de leur reproduction. Ai-je dit pour autant que la pollution lumineuse est une bonne chose ? Non, seulement qu'elle peut avoir des effets positifs, négatifs ou même neutres sur la survie de l'espèce et sa reproduction. Cela n'empêche d'ailleurs pas de constater un déclin des oiseaux et de la biodiversité en général. Pour l'instant, nous n'avons parlé que d'espèces diurnes. Qu'en est-il des espèces nocturnes, comme les chouettes ? L'étude a commencé à s'y pencher, mais sur un échantillon bien plus réduit. C'est une piste à développer, l'autre est plus large et ne concerne pas que les oiseaux. D'autres animaux, mammifères, comme les chauves-souris ou les hérissons, mais aussi les insectes, sont certainement affectés par nos lumières artificielles et ils restent encore largement sous-étudiés.
Merci Alexandra Delbeau pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Ève Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Antoine Beauchamp, Loïc Dutoit, Alexandre Morales, Joseph Schlegel. À la réalisation, Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui, Grégory Wallon. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.